Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mercredi 20 janvier 2016 à la une ce soir.
Arrestation en Guinée du djihadiste mauritanien qui s'était évadé de la prison de Nouakchott. La cavale de Salek Oud Cheikh n'aura duré que 3 semaines.
Dans le centre du Mali, 3 gendarmes ont été abattus hier par des terroristes présumés.
Un candidat à la présidentielle au Niger est entendu à Ouagadougou dans le cadre de l'enquête sur l'attaque contre l'hôtel Splendide vendredi dernier.
L'Afrique du Sud subit la pire sécheresse depuis 112 ans.
Au moins 21 morts dans une attaque contre une université au Pakistan, les talibans revendiquent.
Et dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Au micro, Morgane Diriek et Eric Manirakiza. Condamné à mort en 2011 et évadé de Nouakchott depuis le 31 décembre, Salek Oud Cheikh a été arrêté en Guinée après avoir franchi la frontière en provenance de Guinée-Bissau. La Mauritanie a lancé le 7 janvier un avis de recherche contre Salek Oud Cheikh, condamné à mort en 2011 pour action terroriste après une opération à la voiture piégée menée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, visant à assassiner le président Mohamed Ould Abdelaziz. Joint par VOA Afrique, Mamadou Djoudé Diallo, correspondant de guinemattin.com à Boké, explique que l'arrestation s'est produite mardi soir à une quinzaine de kilomètres de la ville de Boké en Guinée.
Hier, dans les environs de 18h, nous avons été à la gendarmerie de Boké. Les 3 arrêtés étaient déjà mis à la disposition de la gendarmerie de Boké. C'était ces gens qui sont sortis de prison à Nouakchott, en Mauritanie, dans la capitale mauritanienne. Donc, ils ont traversé maintenant la frontière pour Boké. Ils les ont arrêtés. Pendant cette fouille, il y avait un qui avait son pistolet 5 mm dans son caleçon. Il a fait sortir ça et il a tiré 3 coups sur le commandant qui était en train de fouiller. Le consul de Mauritanie en Guinée-Bissau est venu la nuit. Il est arrivé à Boké à 3h du matin. Et il a confirmé, il a insisté et persisté que les 3 sont des bandits de grand chemin. Il a appelé le président de la Mauritanie pour demander un avion qui doit les ramener en Mauritanie à partir de l'aéroport Bessia de Conakry. À l'heure où nous sommes, les 3 ont été transférés à Conakry où ils doivent être ramenés en Mauritanie à travers cet avion.
Le journaliste Mamadou Djoulé Diallo.
Attaque contre un poste de la gendarmerie au Mali. L'assaut qui a fait 3 morts s'est produit à Kakanya, dans la région de Mopti. Les assaillants ont riposté à l'arrestation de leurs 4 compagnons par les gendarmes. Ils sont suspectés d'appartenir au FLM, Force pour la libération du Makina. De Mopti, Mamadou Bokoum nous en dit plus.
L'insécurité persiste dans la région de Mopti avec cette attaque la nuit dernière des gendarmes en poste à Kakanya. Kakanya, c'est un village situé dans la commune de Dialoubé, dans le cercle de Mopti. Le bilan est lourd, 3 personnes tuées. Ils étaient au nombre de 5 gendarmes qui ont arrêté 4 suspects qui appartiendraient au Front pour la libération du Makina FLM. 2 des gendarmes ont été choisis pour acheminer les 4 personnes arrêtées vers Mopti. Les 3 qui sont restés au poste ont été attaqués par un groupe d'hommes la nuit du mardi au mercredi. Les éléments de l'armée malienne ont tous perdu la vie dans cette attaque. Pour le moment, l'attaque n'a encore pas été revendiquée, mais tout laisse à croire que ce sont les membres du FLM. Une équipe est dépêchée très rapidement pour aller chercher le corps des disparus. À en croire quelques témoins, les assaillants sont un peu partout dans cette zone, sémant la terreur au sein de la population. Mamadou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Attentat de Ouagadougou, on fait le point sur l'enquête. 4 personnes ayant conversé avec les djihadistes étaient interrogées aujourd'hui. Ils ont été vus dans une vidéo de surveillance de l'hôtel Splendide. Aucun élément ne permet de dire si la conversation portait sur l'attaque. Par ailleurs, 4 Nigériens ont également été interpellés, dont un homme politique, le docteur Adehag Roubaid, candidat à la présidentielle du 21 février au Niger, se trouvait à l'hôtel Splendide lors de l'attaque qui a fait 30 morts vendredi à Ouagadougou. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Barry, s'est exprimé sur cette interpellation.
Il y a des interpellations, il y a des personnes qui sont relâchées. Vous savez, dans ce genre de situation, on prend presque tout le monde ou tout ce qui peut s'apparenter à des suspects. Et puis, au fur et à mesure, on vérifie. Nous-mêmes, nous sommes intervenus dans certains cas parce qu'on a été saisis par des autorités d'autres pays et des gens qui étaient en mission et donc qui ne pouvaient rien avoir avec cette situation. Mais on ne veut pas non plus interférer dans l'enquête.
C'est le cas du candidat à la présidentielle nigérienne.
Le cas de l'homme politique nigérien, oui, nous avons été saisis par cette situation et nous avons donné quelques indications aux enquêteurs. Mais vous savez, l'enquête a ses exigences et le gouvernement ne veut pas vraiment interférer dans les procédures. Mais on a juste souligné qu'il s'agit de telles personnalités et il faut déjà en tenir compte en matière des droits de l'homme.
L'AFP signale aussi qu'une dizaine de membres de la rébellion Touareg du MNLA ont été interpellés.
Le temps monte entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Au cœur de la polémique, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, frappé par un mandat d'arrêt burkinabé dans le cadre du coup d'État raté du 17 septembre. L'Assemblée nationale ivoirienne y voit donc une attitude inamical qui bafoue l'immunité parlementaire de son président. Les législateurs ivoiriens exigent donc le retrait du mandat.
Et dialogue inter-burundais, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU sont partis aujourd'hui de New York pour le Burundi. Ils vont tenter de persuader le gouvernement d'ouvrir un dialogue avec l'opposition et accepter le déploiement d'une force de l'Union africaine. C'est la deuxième visite des 15 ambassadeurs en moins d'un an. Il faut dire que le pays est au bord de la guerre civile. Les attaques à la grenade et les cadavres trouvés dans la rue au petit matin sont des symptômes quasi quotidiens et beaucoup redoutent un génocide.
Retour sur le massacre ethnique d'Omiriki en République démocratique du Congo. La MONUSCO reconnaît sa réponse inadéquate et tardive lors du drame qui a fait 32 morts début janvier. Il faut dire que les casques bleus sud-africains étaient stationnés à environ un kilomètre du village où s'est déroulée l'attaque nocturne. Ils ne sont pas intervenus pour mettre un terme à la tuerie, déplore le chef de la force onusienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, attaque contre une université au Pakistan. Au moins 21 personnes ont été tuées et plus de 30 autres ont été blessées dans l'assaut revendiqué par les talibans. On fait le point avec Nani Talani.
Cette attaque aussitôt revendiquée par une faction talibane pakistanaise intervient un an après un massacre dans une école de la même région. Quatre hommes, armés de fusils d'assaut et de grenades, ont profité de l'épais brouillard qui enveloppait l'université de Bachakan à Shahrsada pour escalader un mur et lancer leur assaut sur le campus. Des témoins ont fait état de tirs et de deux fortes explosions, tandis que des dizaines d'étudiants paniqués fuyaient les lieux. Alertés, les forces de l'ordre ont aussitôt bouclé la zone avec des blindés et hélicoptères. Les opérations ont été déclarées terminées vers la mi-journée. Dans l'une des résidences universitaires, impact de balles sur les murs, mares de sang et portes défoncées témoignaient de la violence de l'attaque. Les assaillants sont morts, deux d'entre eux étaient des adolescents et deux autres avaient une vingtaine d'années. Ils portaient des kalachnikovs et des grenades, mais n'avaient pas de ceinture d'explosifs.
En Afghanistan, une attente à suicide à la voiture piégée a fait plusieurs victimes près de l'ambassade de Russie à Kaboul. Le ministère de l'Intérieur n'a pas donné de précision et a dit ignorer quelle était la cible de l'attentat. Ce nouvel attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat.
Le forum de Davos a débuté aujourd'hui sous haute sécurité. Au cœur des préoccupations de cette année, la croissance mondiale qui menace de dérailler, l'économie chinoise qui bat de l'aile, la crise migratoire et les attentats quasi quotidiens à travers le monde. On fait le point avec John Lyndon.
Dans les rues enneigées de Davos, les organisateurs ont sensiblement renforcé la sécurité pour cette rencontre de près de 2500 décideurs de la planète. Le thème de Davos 2016 est la quatrième révolution industrielle qui pourrait transformer l'économie mondiale. Géopolitique et diplomatie sont aussi à l'ordre du jour. De la crise coréenne aux attentats djihadistes, en passant par le groupe État islamique ou le cyberterrorisme, autant de sujets qui seront débattus. Cette année, ce qui se passe en Chine va attirer l'attention. Pékin a publié mardi son taux de croissance 2015, qui est de 6,9%, le plus bas depuis 25 ans. Ce ralentissement chinois et la méforme des pays émergents pèsent sur l'augmentation du PIB mondial et plus généralement, c'est toute l'économie du globe qui menace de dérailler, a prévenu mardi le Fonds monétaire international. Ce contexte tendu influence les marchés financiers volatiles, les cours du pétrole et des matières premières.
Les polices allemandes et turques affirment avoir démantelé à l'aube de ce mercredi un réseau de passeurs de migrants en Méditerranée. Lors des perquisitions, 5 personnes et 30 passeurs ont été respectivement interpellés dans 6 régions allemandes et en Turquie.
Plus d'un millier de civils, dont 236 enfants, ont péri depuis le début, le 30 septembre, de l'intervention russe contre les régions rebelles en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui compte un large réseau d'informateurs à travers la Syrie, les deux tiers des victimes sont des combattants, dont 1141 rebelles et djihadistes du front al-Nusra, branche syrienne d'Al-Qaïda, ainsi que 893 membres du groupe État islamique.
Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a déclaré aujourd'hui que la Russie est prête à une coordination plus étroite avec la coalition internationale menée par les États-Unis pour assurer la sécurité des livraisons d'aide humanitaire en Syrie.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le Soudan du Sud serait sur le point de suspendre sa production de pétrole brut, dont il tire pourtant l'essentiel de ses recettes, selon le site internet Soudan Tribune. Le journal révèle que le ministre du Pétrole et des Mines sud-soudanais a estimé que l'arrêt de la production de brut était inévitable à court terme, faute d'accord avec Khartoum sur une réduction des redevances. Le Soudan du Sud a hérité de 75% des réserves pétrolières du Soudan pré-sécession depuis son indépendance, proclamée en 2011. Mais enclavé, il continue de dépendre des infrastructures soudanaises pour l'exportation. Les investissements chinois à l'étranger ont atteint en 2015 118 milliards de dollars, un chiffre record, mais inférieur aux investissements directs étrangers, aux IDE, qui se sont établis à 126,3 milliards de dollars. Les entreprises chinoises ont besoin de s'étendre hors des frontières chinoises. C'est ainsi que près de 600 fusions-acquisitions ont été menées l'année dernière pour un montant total de 40,1 milliards de dollars.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Et c'est parti avec la page sportive avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
On commence par la CAN qui se déroule à Kigali au Rwanda et le Rwanda qui se qualifie chez lui.
Eh oui, les Guêpes qui ont battu les Panthères gabonaises 2-1, c'était à Kigali. Les Guêpes rwandaises qui se qualifient pour les quarts de finale de ce championnat d'Afrique des Nations, réservé aux joueurs locaux. Pour les Panthères qui ne comptent qu'un point en deux matchs, l'avenir s'assombrit nettement. La Côte d'Ivoire qui menait 1-0 contre le Maroc à 20 minutes de la fin du match.
Lionel Messi devant la justice.
L'étoile du football et son père feront finalement juger pour fraude fiscale cette année, juste avant le début de la sélection argentine à la Copa América. L'attaquant du FC Barcelone, mis en examen pour 3 délits de fraude fiscale depuis 2013, risque une condamnation à une peine de prison.
Et en cyclisme, 3e étape de la Tropicale Amissa Bongo.
C'est au Gabon, le Français Adrien Petit qui s'impose à l'issue des 130 km entre Labaréné et Ndjolé. Au général, Andrea Palini est toujours en tête. L'Érythréen Tesfon Okumariam est troisième. Demain, la 4e étape entre Oyem et Ambam.
Dopage de l'aide pour la Russie, Nico ?
Eh oui, des experts britanniques assisteront les autorités de l'athlétisme russe, menacés d'expulsion des Jeux Olympiques de Rio, et ce afin de mettre en place des programmes de contrôle efficaces. C'est ce qu'a annoncé l'agence antidopage britannique.
Et le championnat de basketball américain NBA.
Oklahoma City s'est imposé à Denver 110 à 104 en profitant d'un Kevin Durant toujours en verve qui a aligné un 28e match d'affilée à plus de 20 points. Les Nuggets, eux, occupent la 11e place à l'Ouest avec 16 victoires pour 26 défaites. À noter la victoire de la Nouvelle-Orléans devant Minnesota 114-99. À Miami, Milwaukee a confirmé sa bonne forme en s'imposant 91 à 79.
Merci Nico.
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerrier, Eric Manirakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Burkina.
Après les attaques de vendredi qui ont fait 30 morts à Ouagadougou, un homme politique nigérien est entendu par les enquêteurs. Adak Roubaïd est aussi candidat à la présidentielle du 21 février au Niger. Et ses militants refusent de croire à son interpellation et encore moins à son arrestation. Pardon. Idriss Fall a joint à Niamey son directeur de campagne, Seydou Abdou Dissot.
On ne parle pas de l'interpellation, vraiment, nous ne voyons pas ça en ce sens-là. Vous savez qu'après les événements de Ouarala, il était à l'hôtel. Suite à ça, il a eu certains éclaircissements. Donc c'est par rapport à ces éclaircissements qui sont toujours au groupe. Il est à l'hôtel même.
Et il y avait d'autres qui étaient à l'hôtel et qui n'ont pas été arrêtés ni interpellés.
Vous savez que nous-mêmes, nous sommes... Le docteur même est victime parce qu'il y a son véhicule qui est incendié dans les événements-là.
Mais apparemment, dans certaines vidéos, on l'aurait vu en train de parler aux futurs assaillants.
Vraiment, ça, je viens d'avoir l'information. Je n'ai aucune idée là-dessus, en vérité. Ce que je sais, que très bientôt, le docteur va nous rejoindre ici. Et vraiment, vous aurez l'entente pour vous expliquer tout cela en détail.
Comme il est docteur, qu'est-ce qui s'est passé pour lui en tant que médecin après l'attaque?
Tout juste après l'attaque, il y a même la télévision Burkina Info TV qui l'a même remercié en bas parce qu'en tant que médecin, il a l'instinct de médecin qu'il a pris et il a vraiment sauvé des blessés.
Et vous espérez que c'est simplement pour peut-être des éclaircissements sur quel rôle il a pu jouer?
Oui, sûrement. Nous sommes vraiment en lien direct avec les autorités compétentes du Niger et du Burkina afin que les éclaircissements puissent être accélérés pour qu'ils puissent regagner le Niger.
Qu'est-ce qu'il était parti faire à Ouagadougou?
Dans le cadre des campagnes préélectorales pour pouvoir rencontrer des Nigériens et en même temps des autorités. Pour nous savoir, avec les campagnes qui viennent, il faut nouer des relations avec les pays voisins. C'est comme il a l'habitude même de le faire tout récemment au Ghana, parce que notre parti, c'est un parti qui prône le panafricanisme, le mouvement démocratique pour le renouveau. Nous sommes un parti révolutionnaire de façon pacifique. Et c'est pourquoi même au Burkina, vous savez que le feu Thomas Sankara est révolutionnaire. Et c'est dans ce cadre qu'on est parti prendre des conseils. Comment est-ce qu'on peut mener cette génération à prendre conscience pour qu'ils puissent voter pour nous?
Adé Ag Roubaïd est un Touareg.
Effectivement, je confirme. Notre parti, ce n'est pas dû à la peau. Nous, c'est l'idée, c'est ce qui sort de la bouche des gens et des actes que les gens posent. Par exemple, l'acte qu'il a posé en tant que Touareg au niveau de l'hôtel, c'est pas des gens de peau, de couleur qui l'ont vu, c'est lui qui a fait ça. Et c'est l'instinct de médecin qui est ce truc qu'il a mis toujours. C'est pourquoi vraiment il voulait amener une différence par rapport à notre idéologie.
Et vous pensez qu'il pourra revenir rapidement à Niamey pour battre campagne en vue des élections du 21 février?
Inch'Allah, il sera au Niger pour battre campagne pour les élections du 21 février. Très bientôt même.
Seydou Abdou Dissot, directeur de campagne du candidat Ad Ag Roubaïd au Niger.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la récente attaque djihadiste au Burkina Faso, mais aussi plus largement sur la menace terroriste devenue omniprésente en Afrique. Que doivent faire les pays africains pour enrayer la menace et contrecarrer les tentatives de déstabilisation par les groupes djihadistes? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Les islamistes de Boko Haram continuent d'attaquer les écoles, les marchés, les églises et les mosquées dans l'extrême nord du Cameroun. Face à cette situation, musulmans et chrétiens camerounais ont décidé de protéger mutuellement leurs lieux de culte. Voici un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, présenté par John Lyndon.
C'est l'heure de la prière à la mosquée centrale de Mosoko, localité camerounaise près de la frontière nigériane. Les fidèles sont réunis à l'intérieur tandis qu'un groupe local d'autodéfense monte la garde, interdisant l'accès des lieux à tout inconnu. Parmi les vigiles, Jacques Mabali, âgé de 55 ans et membre de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Il dit avoir répondu à l'appel de sa hiérarchie religieuse.
C'est un acte social et c'est très bien. Ça, c'est pour défendre son pays, c'est pour défendre l'humanité, surtout le peuple camerounais qui n'a pas vécu cette situation pareille depuis un certain temps.
Ibrahim Mokhtar, jeune musulman de Mosoko, explique que ses co-religionnaires et lui protègent les églises.
En tant que fidèle, je fais la prière que Dieu nous protège dans cette histoire-là. Et ça nous inquiète trop. Les chrétiens et les musulmans, ce sont des frères. Parce que je peux être musulman et mon frère est chrétien. Nous faisons beaucoup de prières que Dieu nous garde seulement l'histoire si c'est fini. C'est ça notre souhait.
Les groupes d'autodéfense ont été mis sur pied l'année dernière pour assister le gouvernement camerounais dans la lutte contre Boko Haram, lorsque les insurgés nigériens ont commencé à utiliser des femmes kamikazes. Le Cameroun compte 23,7 millions d'habitants, dont 40% de chrétiens, 20% de musulmans et 40% d'adeptes de religions traditionnelles. Midjiwaya Bakari, gouverneur de l'extrême nord, se félicite de la collaboration entre musulmans et chrétiens de sa région dans la protection du pays.
Nous l'avons vu et nous avons applaudi à deux mains cette mesure qui a consisté pour les chrétiens à sécuriser les lieux de culte quand les musulmans prient et vice-versa. Nous avons vu le dimanche passé où, pendant que les chrétiens étaient dans les églises, c'est les musulmans qui faisaient la ronde et qui montaient la garde. Et nous condamnons avec la dernière rigueur cet acte encore barbare et nous présentons aux familles si durement éprouvées les condoléances du chef de l'État.
Pour les autorités de Yaoundé, Boko Haram se rabat maintenant sur les mosquées parce que sa force de frappe a été nettement diminuée par les raids des troupes camerounaises et nigérianes contre ses bastions au Nigeria.
Au micro, Idrissa Sidoudia, dans le dialogue des religions du mercredi 20 janvier 2016, à partir de 19h, temps universel sur VOA Afrique, le front commun contre les islamistes de Boko Haram au Cameroun. Les chrétiens protègent les mosquées les vendredis et les musulmans font de même pour les églises les dimanches. Que pensez-vous de cette coopération entre les deux communautés? Laissez vos numéros et commentaires sur voaafrique.com.
Et cap sur le Sénégal. Le président Macky Sall respecte sa promesse électorale en abandonnant le septennat au profit du quinquennat. Plusieurs autres réformes sont concernées par le projet de révision constitutionnelle. En mai prochain, le peuple sénégalais devra donc voter oui ou non. Mais avant la tenue du référendum, le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale devront se prononcer sur le texte. De Dakar, la correspondance de Sorna Natambay.
Tout a commencé lors de la campagne électorale de 2012. Le candidat Macky Sall avait promis de réduire la durée du mandat présidentiel. Trois années plus tard, cette promesse le rattrape. Le débat fait rage. Pour le constitutionnaliste Babacar Gueye, le chef de l'État n'est pas tenu de s'y conformer.
Les promesses ou les engagements d'un candidat à la présidence n'ont aucune valeur juridique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le président de la République décidait de ne pas respecter son engagement de réduire la durée du mandat du président de la République et de la porter de 7 à 5 ans, il ne commettrait aucun crime ni aucun délit.
À la surprise générale, le 17 janvier dernier, Macky Sall fait fi de la volonté de certains de ses alliés et propose un projet de révision constitutionnelle. Un texte qui devrait être soumis au peuple par voie référendaire en mai prochain. Le document est envoyé aux médias et cela provoque des grincements dedans du côté des alliés. Jean-Paul Diaz, président du parti BCG.
Un document comme ça doit nous parvenir par le ministère de l'Intérieur, pas par la presse. Et je regrette, ce travail n'est pas le fruit d'une concertation. Parce que tout ce qui a été dit à la CNRI ne nous lie pas, nous, partis politiques.
Le porte-parole du gouvernement, lui, demande de respecter le choix du chef de l'État, Seydou Gueye.
Le président Macky Sall a fait quelque chose d'inédit et d'exceptionnel. On n'a jamais vu au monde un président accepter de réduire son mandat parce qu'il sait que le pays en a besoin. Avec 15 modifications structurantes, elle deviendra une constitution impersonnelle.
Sur le fond, Jean-Paul Diaz et beaucoup de ses compagnons ne veulent pas des réformes.
Nous ne sommes pas d'accord pour que des candidature indépendante soit autorisée lors des élections locales. Nous ne sommes pas d'accord non plus pour que le nombre de membres du Conseil constitutionnel qui doit passer de 5 à 7 voit les deux membres supplémentaires désignés par le président de l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas d'accord sur la réduction du mandat. C'est tout à fait illégal puisque qu'il avait prêté serment de respecter la Constitution, donc de respecter un mandat de 7 ans.
Bien évidemment, du côté de l'opposition également, le procédé dérange. Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais.
Je ne suis pas certain que c'est le président de la République qui a publié un projet de révision constitutionnelle. Si c'était le cas, j'aurais vu un décret de publication ou à la limite une saisine des organes prévus dans ce sens par la Constitution.
Parmi les modifications, la limitation d'âge à 75 ans pour tout candidat à la présidentielle en quinquennat, être exclusivement de nationalité sénégalaise, entre autres. Ces nouvelles dispositions, si elles venaient à être adoptées, vont exclure d'office des candidats. Par exemple, Karim Wad, le fils de l'ancien président, emprisonné depuis près de 2 ans et qui bénéficie d'une double nationalité. Sornana Tambay, Dakar, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la pire sécheresse depuis 112 ans a été enregistrée par les services météorologiques. Des températures anormalement élevées, des pluies plus que faibles en 2015, un phénomène qui concerne plusieurs pays de la région de l'Afrique australe et qui a de graves répercussions sur le secteur de l'agriculture. Maëlys Hegel, agent Guillaume Foury, conseiller pour les affaires agricoles de l'ambassade de France en Afrique du Sud.
Les données qui ont été publiées font état d'une sécheresse exceptionnelle en Afrique du Sud, mais elle touche également l'ensemble de la région Afrique australe, c'est-à-dire des pays comme la Zambie, comme le Malawi, comme le Botswana, comme le Zimbabwe, du fait du phénomène El Niño qui est d'une intensité particulière cette année. Ça se traduit généralement en Afrique australe par une sécheresse marquée, un retard dans la saison des pluies et un caractère très aléatoire au niveau géographique. Donc ce qu'on sait déjà, c'est qu'il va y avoir une baisse extrêmement forte de la production agricole. Plus emblématique est celle qui concerne le maïs, qui est la principale céréale cultivée en Afrique du Sud. Selon les dernières statistiques, la production serait inférieure de 50% à la moyenne, ce qui est vraiment extrêmement faible. Et cela est dû au fait que de nombreux agriculteurs en fait, n'ont pas été en capacité de semer, tout simplement, puisque les précipitations étaient vraiment trop faibles. Et donc de nombreux agriculteurs vont avoir des graves problèmes de trésorerie. C'est une vraie problématique pour l'avenir du secteur agricole sud-africain.
Et donc, quels sont les moyens mis en œuvre pour lutter contre cette sécheresse?
Il y a 9 provinces en Afrique du Sud. Il y a 5 de ces provinces qui ont été déclarées par l'État en situation de sécheresse sinistrée, ce qui a permis de mettre en place des mesures exceptionnelles, notamment de restriction des usages de l'eau et également de réallouer certains crédits en direction des exploitations les plus fragiles. Ces crédits étaient largement insuffisants par rapport aux enjeux. Et dans ce contexte, et face à l'aggravation de la crise, on a eu la semaine dernière le département de l'agriculture et le ministère du budget qui ont annoncé une enveloppe exceptionnelle de 450 millions de rentes, soit à peu près 25 millions d'euros, pour venir en aide au secteur agricole. Donc on a déjà changé de dimension. Ça va permettre notamment de venir en aide aux éleveurs sous la forme de distribution d'eau pour les animaux et de fourrage, puisque il y a eu quasiment aucune production fourragère en Afrique du Sud cette année. Les besoins totaux pour que le secteur agricole puisse se remettre de cette sécheresse sont vraiment d'une autre dimension, puisqu'il évalue entre 1,5 et 2 milliards de randes, soit à peu près une centaine de millions d'euros.
Guillaume Faury, joint à Pretoria.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Georges Léonard Sagnot, présentation Morgane Diriek et Eric Menirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook où vos questions et commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez aussi partager vos photos et vidéos et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.